Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport. C'est votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi. Merci beaucoup de votre fidélité. On est très heureux d'être avec vous. Tous les week-ends, on est là, les grandes gueules du sport solides sur nos appuis. Les GG, l'émission de sport que tu peux écouter en voiture, en pyjama, en podcast, tous les trois en même temps. Au sommaire des grandes gueules du sport, un programme très riche. Dans quelques instants, la une des GG, Lionel Messi est revenu à Paris après des jours de célébration en Argentine pour fêter sa Coupe du Monde. Et une question, et dans tous les esprits, ses supporters doivent-ils célébrer son mondial? 9h30, la punchline des GG, signé Raphaël Nadal. Qui en a marre qu'on lui parle de sa retraite après avoir perdu ses deux premiers matchs de la saison? Nadal, faut-il quand même arrêter de rêver? Oui ou non? On vous posera cette question. Et puis 10h, les GG passeront la seconde autour de Zinedine Zidane, qui ne devrait pas être le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Doit-il arrêter d'attendre les Bleus? Les grandes gueules du sport ce matin, une grande gueule qui, comme Sébastien Loeb, était un cadeau il y a 10 ans, et puis depuis c'est un peu le désert. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Depuis, c'est fait rattraper par Sébastien Ogier, en l'occurrence Jean-Christophe Drouet. Mais fais gaffe à pas te faire remplacer toi aussi. Parce qu'il y a des petits jeunes qui pointent le bout de leur nez, on m'a dit qu'ils étaient pas mauvais, hein.
Tu sais très bien que ça arrivera.
Oui,
justement.
Mais plutôt prévu peut-être.
À chacun son Estelle Denis, mon pote. Donc ça arrivera un jour et voilà. Et c'est le métier quelque part.
Tu es mon Estelle Denis en fait.
Exactement.
Oui. C'est beaucoup moins joli quand même.
C'est possible, on lui dira. Une grande gueule qui, comme Sébastien Loeb, a toujours été à l'aise avec les tonneaux. Denis Charvet, salut Denis. Ça va, Denis ?
Bonne année.
Les tonneaux en voiture ou les tonneaux ?
Oui, non,
je pas bon.
Tu prends ce que tu veux, mon Christophe.
C'est là la subtilité de JC.
JC est subtil, non mais.
Non, mais il réfléchit en plus. C'est réfléchi.
Et puis c'est travaillé pendant des heures.
Et travaillé, évidemment.
Non, c'est un rugbyman, forcément, les tonneaux.
Moi, j'ai fait une troisième connotation sur les tonneaux, mais je ne sais pas si quelqu'un y pense.
Attends, ça, c'est pour toi. Une grande gueule qui, comme Sébastien Loeb, a toujours aimé les têtes à queue. Stéphane Brun, salut Stéphane.
Salut. JC, salut tout le monde.
Ça va bien, ça va?
2023, l'année de l'élégance, JC.
Oui, c'est possible. Bon. C'est possible. Je vais tenter.
C'est qui? Il travaille les trucs avec son mentor Pierre Amiche, qui quand même de ce côté-là est comme très rugbyman.
Tu vois,
au niveau des vannes.
On embrasse évidemment notre producteur Pierre Amiche, qui sera là à 10h30.
L'homme qui parlait à l'oreille de Drouet, parce que Drouet, il
parlait
à l'oreille quand même. Il faut quand même reconnaître.
C'est vrai que toi, tu n'avais pas du tout de producteur qui te parlait.
J'avais pas Pierre Amiche. Pas longtemps.
C'est sûr qu'il faisait tout seul. Il produisait.
J'avais Sarah à mes côtés, moi. Attends.
Ok, justement. On va la présenter.
Je
ne soufflais
pas l'oreille, hein, Christophe.
Une grande gueule qui, comme Sébastien Loeb, vit la moitié de l'année avec du sable dans le Falzar. Vive la boule.
Oui.
Sarah Pitkowski, salut.
Bonjour
Sarah.
Bonjour à tous. Bonne année, meilleur vœu.
Alors, oui, moi je vous souhaite aussi, c'est vrai, je voulais vous souhaiter une très belle année.
Mais c'est comme ça que tu nous souhaites bonne année. Ouais, on commence par nous insulter dans le nez, quoi.
Oh, c'est pour vous taquiner. Alors, juste, non, je vous souhaite une très bonne année. Mais sachez quand même qu'on était là le week-end dernier. Nous, on était là. Enfin, moi, j'étais là le 1er janvier.
T'étais là le jour de Noël aussi ?
C'était un pigeon, t'es un pigeon.
T'étais où le 24 décembre ?
Mais nous, on n'était pas là, donc
t'étais où le 24 décembre ?
Ben oui, je
vous souhaite... Et le 25 décembre, t'étais où ?
Ben, je présentais le best-of, moi.
Ouais.
C'était peut-être enregistré, mais au moins je le présente.
Ok, il était en tête.
Donc, je vous souhaite une très belle année 2023. Je suis très heureux d'être avec vous. Mais l'année prochaine... Essayez d'être là le 1er janvier.
Oui, essayons de commencer à 10h, si tu veux que je sois là le 1er janvier.
Non, mais le 1er janvier sera lundi, donc on peut être là, on sera
le
là
31.
On sera là le 31 au matin.
L'an passé, j'y sais, j'ai dépanné.
Oui.
Pied levé, souviens-toi.
Je me souviens. T'étais en vacances.
1er janvier.
Exactement.
Les grandes gueules.
Est-ce qu'on devrait faire? On devrait mettre Bartoli Time le matin entre 8h et 10h, le samedi et le dimanche, et les grandes gueules du sport vers 15h, 16h.
Ah, okay. Voilà. Je vois que Christophe n'a pas du tout envie de faire les débats et il n'a pas du tout bossé l'émission.
Il est en train de saboter ton conducteur.
Là où t'as raison, c'est que bientôt il va dégager.
Moi, je me rappelle qu'une année, un 1er janvier, j'avais joué un match de championnat.
Oui.
Ouais, et alors?
Tu devais être très frais, non?
Ouais, j'avais loupé le départ du bus d'ailleurs.
Le 1er janvier, je tube.
Ça m'étonne pas. Allez, les copains, on va débuter cette émission avec cette citation de Victor Hugo qui a dit un jour: réfléchis longuement avant de te faire applaudir par tes ennemis.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Le public de lui-même, quand il rentre, Messi doit se lever et applaudir. Voilà, une minute d'applaudissement.
Messi, pour moi, déjà, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football et c'est mon idole. Il mérite sa Coupe du Monde.
Messi face à Doris, Messi contre-pied, parfait. sublime ce que tu as fait. Il a fait une Coupe du Monde extraordinaire. Il est champion du monde. J'espère qu'il sera fêté par nos supporters.
Il faudrait pas qu'il y ait d'accro. Hein. Parce que si jamais il gagne, les Burgondes, ça va être la fête à mon cul. Ils sont pas vraiment choucards avec les traîtres.
L'arrêt de Messi. Non, la frappe a arrêté. Messi qui vient doubler.
Moi, j'aime le foot et les émotions. Qu'est-ce qui me procure le plus d'émotions? C'est plus l'Argentine et Messi que la France, son réalisme et l'efficacité de Mbappé.
Ça a dégénéré, j'ai cru qu'ils allaient se battre.
J'ose espérer qu'il soit fêté et célébré par nos supporters au Parc des Princes. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas.
Merci, gracias, muchas gracias. Merci à todos.
Il répondait au nom de Messi. Les Parisiens ne voulaient pas le lâcher. Il faisait trembler partout, mais où? Ramos m'a dit, méfie-toi de ce gars-là.
Deux semaines et demie après sa victoire en Coupe du Monde, Lionel Messi était de retour à l'entraînement avec son club, le Paris Saint-Germain. C'était mercredi et ses coéquipiers lui avaient préparé une petite surprise, un petit cérémonial pour le retour du héros. Mais quid désormais de ses propres supporters? Lionel Messi est certes devenu champion du monde, mais en battant la France de Mbappé. La musique qui fout les jetons. Et cette question. Les supporters du PSG doivent-ils célébrer la Coupe du Monde de Messi? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Oui.
Sarah Pitkowski.
Non.
Stephen Brun.
Oui.
Denis Charvet.
Heureusement.
Trois oui, un non. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Fabrice Hawkins. Salut Fabrice, on imagine que le PSG anticipe déjà le prochain match au Parc avec le retour de Messi.
Absolument. Au club, on réfléchit toujours à la meilleure manière de rendre hommage à Lionel Messi. Sujet délicat, car au-delà du fait que le septuple Ballon d'Or a battu la France en finale, sa relation avec le public du Parc n'est pas fluide. Il a été sifflé après l'élimination du Paris Saint-Germain face au Real Madrid la saison passée. Depuis, la Pulga comme Neymar ne vont plus saluer les fans. Une minorité de supporters affirme même sur les réseaux sociaux qu'ils sont prêts à siffler s'il y a une cérémonie pour rendre hommage à Messi. Christophe Galtier, lui, ne sait pas encore si le club a prévu quelque chose.
Est-ce qu'il y aura une célébration lors de son prochain match au Parc des Princes? On verra quand ce sera son prochain match au Parc des Princes. Mais il n'y a pas la demande et le besoin de Léo d'être célébré. Il a fait une Coupe du Monde extraordinaire. Il est champion du monde. C'est un joueur hors norme. J'espère qu'il sera fêté par nos supporters. C'est Léo Messi, un joueur du Paris Saint-Germain qui est champion du monde. Et je crois qu'on a beaucoup, beaucoup de chance d'avoir chez nous un joueur comme Léo Messi. J'ose espérer qu'il soit fêté et célébré par nos supporters au Parc des Princes. Et il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas.
Le PSG n'a pas attendu le premier match à domicile pour célébrer son champion du monde. Ce mercredi matin, joueurs, staff et salariés ont fait une aide d'honneur à l'ex-Barcelonais au centre d'entraînement. Il y avait de la joie et des applaudissements. Une photo a fait le tour du monde. Au premier plan, Lionel Messi est au sourire avec un trophée remis par Luis Campos. Au second plan, le regard noir d'Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian.
Merci Fabrice pour toutes ces précisions. Vous avez entendu Christophe Galtier. Je ne vois pas pourquoi les supporters ne vont pas célébrer la Coupe du Monde de Lionel Messi. C'est notre débat, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. J'ai un nom, c'est Sarah Pitkowski.
Ah oui, j'ai un nom. Alors, je m'excuse d'abord parce que c'est vrai que je perds tout sens commun quand je suis l'équipe de France.
Voilà. Ah, ok, d'accord.
Mais vraiment, je serais Christophe Galtier, je dirais la même chose. Mais là, je dis pas du tout la même chose. Si tu me mets dans le stade, prochain match, PSG Angers, je te jure que je le siffle, Messi.
Tu lui jettes des oies.
Ah non, mais si tu veux, même, en fait, je fais rien. Je peux pas. Tu viens de dire deux semaines et demie. Pour moi, c'est trop. La blessure, elle est trop présente. Messi n'a pas battu n'importe quelle équipe.
Et tu le siffles pour quelle raison?
Non, parce que je te le dis, je perds tout sens commun. C'est-à-dire que je vis cette défaite.
Je connaissais pas la Sarah Oligan, moi. Mais je ne connaissais pas Oligan.
Non,
on peut perdre tout sens, comme tu dis, mais en même temps, il y a quand même aussi admiré ce que représente ce joueur.
Il est admiré. Le club que je suis, c'est le PSG. Si tu me dis que Messi joue à Marseille et on demande si on doit célébrer Messi à Marseille. Je te dis oui.
Après, mais là, en fait, à Marseille, il y a Guendouzi et Veretout. Hein.
Oui, mais c'est pas la même chose parce qu'en fait, il bat l'équipe de France. Il bat Kylian Mbappé. Mbappé, c'est un joueur phare du PSG. Le PSG, c'est un club que je suis. Messi, pour moi, n'est pas encore associé et n'a pas marqué le PSG. Voilà. Et que ces deux semaines, c'est trop juste. Et le scénario de cette finale, c'est une blessure. Ensuite de ça, la petite chose, la petite cerise, le cherry on the cake, c'est que j'ai du mal à accepter que l'Argentine ait un joueur en particulier et continuer malgré leur victoire exceptionnelle.
Bravo, Dibou Martinez.
Oui, mais
tu ne peux pas associer l'image de Messi à l'image d'un abruti qui continue à faire parler de lui.
Oui, mais Messi,
non, mais je suis désolé.
Est-ce qu'on est allé chambrer Ronaldo quand on bat le Brésil en finale de la Coupe du Monde en 98 alors qu'il était à l'hôpital?
Mais non, pour moi, il y a pas débat pour moi. Tu honores le meilleur joueur du monde.
Mais c'est fait, le PSG l'a fait,
c'est son club. Il a fait quand le PSG?
Mais c'est fait.
Mais c'est avec les supporters qu'il faut le faire. C'est pas dans un petit stade, dans l'entraînement.
Tu peux pas obliger 60 000 personnes à dire si eux se sentent.
Mais moi, je vais te dire un truc. Non seulement je me lèverai, et je pense que personne ne sifflera. Moi, j'en suis persuadé. Tu verras ce que je te dis. Je le pense sincèrement.
Je suis pas aussi sûr que toi parce que.
Non, mais on parle de mec qui a 7 ballons d'or, qui a toujours été exemplaire. Tu peux lui reprocher quoi, ce mec? À part que il a pas la personnalité de Neymar ou de Maradona. Il est assez comment dire sobre dans sa façon d'être.
Et comment tu fais pour la gestion de tes stars? Comment tu fais pour
mais c'est la vie, ça, c'est le sport. Il a gagné, mais s'il va pas gagner.
Mais tu dois gérer la gestion de tes stars.
On doit passer au-delà de ça, justement. Je pense qu'il faut être intelligent.
Mais regarde le PSG, le vestiaire du PSG. Le problème du vestiaire du PSG, c'est la gestion des égos.
Mais là c'est pas un problème d'égo. Je te parle d'honorer un super champion qui est champion du monde, qui a 35 ans à réaliser son rêve.
Mais il y aura forcément un problème avec Mbappé.
Mais non, mais quel problème avec Mbappé? T'as vu la réaction de Mbappé sur le goal? Il est trop intelligent, Mbappé, pour agir.
Mais parce qu'il est loin, il maîtrise tout.
Vous avez entendu Fabrice Hawkins qui disait c'est une question délicate au Paris Saint-Germain, mais parce évidemment. Que le PSG, c'est pour ça qu'on en parle. Elle se pose la question de savoir comment gérer le rêve de Lionel Messi.
Et alors, il y avait peut-être une solution possible, mais je pense que, comme le disait Sarah, la gestion des égos fait que ça ne sera pas possible. C'est peut-être de faire entrer les deux stars de la finale ensemble sur la pelouse du Parc des Princes.
Oui, et meilleur buteur.
Pour féliciter le meilleur joueur et le meilleur buteur de la Coupe du Monde.
Ils vont le faire, peut-être.
Qui ont été sacrés dans tous les journaux cette semaine.
Main dans la main, et puis ils refont leur but au ralenti.
Comme Federer et Nadal, pleure.
Au-delà de la c'est naïf de penser ça aussi, de la part de Christophe.
Oui, un petit peu. Vous allez me dire qu'un Mbappé, il va venir à côté de Lionel Messi. Il sait que c'est Lionel Messi, champion du monde, et qu'ils vont faire semblant pour faire plaisir à Mbappé, de faire une célébration en binôme, juste pour pas heurter l'ego d'Mbappé. Bah, j'ai du mal à y croire.
Non, mais surtout qu'Mbappé, quand il était chercher son titre de meilleur buteur, il était défait, il n'en a rien à faire. Ce qu'on comprend. Parce que
alors, autre solution, tu félicites et tu rends hommage à Messi, et tu laisses pour l'instant Mbappé à New York. Comme ça, il assiste
mais
pas.
Arrêtez,
il
mais pourquoi, pas pourquoi mais Mbappé ne pourrait pas être là? Excusez-moi,
c'est un problème d'ego. Mais
vous avez lu ce qu'a dit Mbappé. Il a dit je ne digérerai jamais cette défaite. On est à 2 semaines et demie. Tu peux pas tirer un trait sur quelque chose qui est aussi récent.
Tu peux ne pas digérer une défaite, mais accepter être le vainqueur fasse partie
mais
de ton équipe.
Mais qui dit qu'il l'accepte pas? Là, on parle de cérémonial. On dit pas qu'il accepte pas que Messi joue avec lui.
Là, on parle pas de cérémonie. On parle de Lionel Messi qui vient sur la pelouse du Paris Saint-Germain.
Oui,
et le speaker,
oui,
Lionel Messi, champion du monde, et que le Parc des Princes applaudisse. Bravo Lionel Messi pour une minute et basta. Et le match.
Non mais ça va.
On parle pas d'une estrade, un tapis rouge.
Le paradoxe, c'est qu'on reproche au mec la mauvaise tenue des Argentins, cette arrogance, tout ça. Mais Mbappé, il est pas comme ça. Mbappé, évidemment,
qu'il
est meurtri. Mais lui,
face aux médias, il donne une posture. C'est pas ce qu'il ressent.
Mais je suis d'accord avec toi.
Il joue un rôle quand il est face aux médias et en communication.
D'accord, mais c'est la vie d'un sportif. Là, tu es toujours sous le même maillot du mec. Mais je trouverais grand seigneur de Mbappé, justement, d'être là et proche de Messi. Moi, je trouve que ça serait un geste.
C'est pour ça que je suis assez d'accord avec la théorie de Christophe, parce que ça pourrait être une idée. Et au moins, tu es sûr que personne ne va siffler Messi si Mbappé et Messi s'avancent sur le terrain.
Oui, parce que, alors, tu disais tout à l'heure, Denis, que tu pensais que personne ne sifflerait.
Moi, personne.
Je suis pas convaincu quand même.
Autre scénario. Je vous propose un autre scénario. Si la France avait battu l'Angleterre en finale de
l'Angleterre?
Oui, si la France avait battu l'Angleterre, est-ce qu'en Angleterre, les Français des clubs anglais aurait été célébré en rentrant sur le terrain.
Mais moi, je te pose un autre scénario. Si la France avait été championne du monde, est-ce qu'on aurait fait fi des sentiments de Lionel Messi qui est
en
finale contre la France
et on aurait fait la fête.
Mais justement, on aurait fait la fête pour l'équipe de France et Messi ne
chialait
pas.
Mais c'est pas grave, on s'en fout.
Les supporters du Paris Saint-Germain sont pour la plupart supporters de l'équipe de France également.
Est-ce que les clubs anglais vont célébrer les joueurs français qui sont dans leur club?
Ben oui, mais pourquoi?
Non, c'est pas dit, t'as raison.
Tous les Argentins qui sont en club, ils ont été fêtés par leur club.
Tous les Argentins ont été fêtés par leur club.
Ils sont rentrés sur les pelouses anglaises, ils n'ont pas perdu contre la France, en fait.
C'est ça, exactement.
Vous ne pouvez pas faire abstraction de qui était l'adversaire. Attendez,
je reprends la main juste pour préciser. Les Argentins de l'Atlético Madrid.
Non, tu sais pourquoi De Paul s'est fait siffler? Ça n'a rien à voir. Ils le sifflent parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils soient si mauvais en club, qu'ils soient si bons. Mais ils ne sifflent pas parce qu'ils
Ça n'a rien à voir. Non, mais il y a un lien avec Lionel Messi, parce que vous avez entendu Fabrice Hawkins et vous en souvenez tous. Il y a une petite fracture, et je vais vous faire écouter quelque chose. Il y a une petite fracture entre Lionel Messi, Neymar et le public du Parc des Princes depuis ses sifflets après l'élimination la saison dernière face au Real Madrid. Il y a quelques instants, juste avant la Coupe du Monde, Christophe Galtier était l'invité d'RMC dans l'émission Rotten sans flamme avec Jean-Louis Tour et Jérôme Rotten, et on lui a posé la question. Comment régler ce conflit Messi-Neymar et les supporters? Réponse.
Pour l'instant, on n'a pas les résultats escomptés, mais évidemment que c'est un travail permanent. Évidemment, après, c'est toujours difficile. Et Dieu sait qu'ils sont présents, nos supporters. Dieu sait qu'ils sont présents. Je ne suis pas là à faire quoi que ce soit. Ils sont présents. Il y a une grosse ambiance au Parc des Princes. Ils sont à l'extérieur. Ils sont omniprésents.
C'est vrai.
Et vraiment, je veux leur remercier. Quand ça commence à pousser au parc, c'est très important. Mmh. Croyez-moi, c'est un soutien permanent, un soutien important pour nos joueurs. Après, que des joueurs rentrent directement, c'est un débat permanent dans tous les clubs. Mais évidemment que l'on doit y remédier, qu'on y travaille et que pour l'instant, on n'a pas trouvé la bonne chose. Mais il faudra sûrement plus les sensibiliser.
Il y a déjà une petite fracture.
La fracture a été l'année dernière, l'an passé. Oui. Mais moi, je vais au parc tout le temps, tu le sais, depuis début septembre. Messi, excuse-moi, il fait une grande saison avant la Coupe du Monde.
Et il est applaudi.
Et il applaudi. Et on scande Messi. Moi, je peux te dire, j'ai entendu des Messi devant 45 000 personnes qui disaient Messi. Donc c'est pour ça me fait rigoler. Okay. Et pourquoi l'année dernière, il y a eu fracture? Parce qu'il n'était pas très bon. Tout simplement.
Et puis parce qu'on disait à l'époque,
on ne siffle pas Lionel Messi, c'est vrai.
Il n'est pas remercié les supporters du PSG aussi après les matchs.
C'est ça que je ne comprends pas, moi. Ouais. Même Neymar, je ne comprends pas que n'arrivais pas.
Après ça, tu parlais d'ego et d'ego du vestiaire du Paris Saint-Germain. Je rappelle quand même que Lionel Messi a tapé Neymar en finale de la Copa América. J'ai l'impression que ça se passe bien. Ça se passe bien entre les deux dans le vestiaire. Donc il n'y a pas vraiment de problème d'ego là-dessus. Ça reste des matchs de l'équipe nationale. Moi, je trouverais que le parc en sortirait grandi de pouvoir dire un petit bravo d'une minute à Lionel Messi, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'ils ont la chance d'avoir l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde, au Parc des Princes, à Paris, dans notre championnat. Donc une minute d'applaudissement, ravalons notre fierté. Oui, ça fait mal d'avoir perdu contre l'Argentine, mais savoir dire merci, c'est bien aussi.
C'est vrai, mais juste un petit truc, parce que tu parlais tout à l'heure, et je rebondis là-dessus, sur pas de grande cérémonie, pas de feu d'artifice. On sait quand même que le PSG, dès qu'ils organisent un mini-truc, un mini-transfert et tout ça, c'est quand même Disneyland.
Mais le PSG, c'est... Enfin, moi, si j'étais Qatari, je ne lâcherais pas là, si j'étais Qatari.
Pourquoi?
Parce que ça intéresse pas. Et
parce que c'est
de
pas
quoi,
la... Tu veux dire que la pige est pas assez bonne ici?
Exactement.
Je verrais bien avec la petite tunique.
Si j'étais Qatari, c'était quand même ma Coupe du Monde, celle que j'ai organisée, et j'ai les deux plus grands joueurs de cette Coupe du Monde dans mon équipe. Bien sûr que je serais tenté de faire quelque chose.
Un champion du monde, le meilleur buteur et un champion du monde.
Mais ils sont embêtés, ce sont nos informations. Le PSG, c'est une question délicate.
Alors, juste, moi, je rêve d'une célébration, messieurs, dames, celle de voir un gardien qui s'appelle Martinez rentrer dans le rôle de gardien du Bayern de Munich lors du match de Ligue des Champions, parce qu'il est question peut-être qu'il aille là-bas.
Il est encore à Aston Villa.
Mais ce serait pas génial de le voir rentrer sur la pelouse
du parc. Oui,
et qu'il arrête tous les tirs au but du Paris Saint-Germain.
Mbappé, il en met 4.
Évidemment. On va dire que si les Français sont un peu meurtris. Ils en veulent plus au gardien depuis ce qui s'est passé qu'à Lionel Messi, pour le coup.
Ah oui, forcément.
Tout le monde est plutôt.
Non, mais après, je veux juste revenir sur le match, sur le match, le titre de champion du monde. Parce que c'est vrai qu'on est, nous, on est très cocardiers. On a eu tellement envie qu'ils gagnent les Français. Mais sincèrement, sur la finale, moi, je l'ai revu hier.
Bien sûr.
Il y a pas de gagner. Photo en plus. Non mais tu peux m'expliquer ce que tu veux. Même le penalty 3-3.
Mais bien sûr.
Le penalty 3-3, il n'est jamais.
C'est la dramaturgie.
Mais même le penalty 3-3, il te le donne, l'arbitre, le penalty. J'ai vu hier. Le mec, il tire dans les tribunes.
C'est vrai qu'aux Argentins, ils ont jamais rien donné comme penalty durant cette Coupe du Monde. T'as bien raison.
Le premier penalty.
Non, mais je dis ça parce que à l'arrivée, Messi fait un match énorme. Il fait gagner l'Argentine. On oublie tout ça. C'est-à-dire que nous, on a notre regard sur l'équipe de France.
Il faut être capable d'apprécier quand même la
performance. Mais on l'a apprécié.
Mais on a dit bravo, on en a fait des caisses et des caisses sur Messi.
Messieurs, dames, oublier et ne pas tomber dans les excès,
voilà, les excès
qu'a connu la Belgique il y a quelques temps et ne pas avoir le seum.
C'est ce que je dis.
Pendant 4 ans, on a perdu. C'est
ouais, terminé, quoi. Seigneur, maintenant, là, voilà. Comme dit Stéphane, ta fierté, tu la mets de côté et tu célèbres le plus grand joueur de tous les temps.
Ok, en tout cas, ça pourrait être mercredi prochain.
J'espère, j'y serai.
Pour le retour.
J'espère.
On va organiser un truc pour toi d'ailleurs, avec Lionel Messi. Pourquoi pas?
Moi je suis très
Paris Saint-Germain Angers, ça pourrait être le retour.
On va déguiser Denis en cheerleader, devant du terrain.
Et là, personne n'osera s'y
couler. Non, personne.
9h28, on se retrouve dans quelques instants. La punchline des GG, nous allons passer à un tout autre sujet. Raphaël Nadal, qui n'en peut plus qu'on lui parle de la retraite. Faut-il arrêter de rêver? Vous n'êtes pas d'accord, les GG? À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h31, on est de retour dans les grandes gueules du sport. On est ensemble jusqu'à midi. Si vous avez manqué le débat sur Lionel Messi, doit-il être célébré par les supporters du Paris Saint-Germain pour sa Coupe du Monde, n'hésitez pas à aller nous télécharger en podcast, toujours avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Stephen Brun, dans une petite dizaine de minutes. Le zapping des GG, on s'en fout pas. Une information tout d'abord à vous donner, c'est le clash. Je ne sais pas si vous avez vu ça cette semaine, forcément, entre Maxime Mermoz, ancien du 15 de France, et son ancien sélectionneur, ami de la maison, Philippe Saint-André. Philippe Saint-André qui a réagi hier dans le Super Moscato Show. Si ça vous intéresse, je vous raconte cette histoire. Ça, c'est dans une petite dizaine de minutes. Deux matchs, deux défaites. Raphaël Nadal n'a pas vraiment bien débuté son année 2023. Deux revers face à Cameron Norrie, 14e joueur à l'ATP, et Alex de Minaur, 24e joueur mondial. Rien d'affamant, donc, mais alarmant. À titre de comparaison, l'année dernière, janvier 2022, l'Espagnol avait remporté ses quatre matchs de préparation avant l'Open d'Australie, avant de pulvériser tous ses adversaires lors du Grand Chelem australien. Il y a quelques jours, Raphaël Nadal s'est présenté en conférence de presse et comme désormais à chaque fois qu'il fait face aux médias, une question sur sa possible retraite a fusé. Réponse en forme de recadrage, c'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
For me, I lost my match.
Pour moi, j'ai perdu mon match, c'est ça, non?
Every time that I'm coming to a press conference, seems that I have to retire.
Chaque fois que je viens en conférence de presse, on dirait que je dois prendre ma retraite. Donc vous êtes très très intéressé par ma retraite, mais je veux dire par là que pour le moment, ce n'est pas le cas. Quand ce jour arrivera, je vous le ferai savoir, mais arrêtez avec la retraite, parce que je suis ici pour continuer de jouer au tennis.
Arrêtez de me parler de ma retraite. Voici la question Nadal. Faut-il arrêter de rêver, quand même? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Non.
Sarah Pitkowski.
Je pense que oui.
Stephen Brun.
Moi, j'arrête de rêver, oui.
Denis Charvet.
Malheureusement, oui.
Qui est encore toute seule? T'es encore toute seule?
Non, c'est Christophe.
Bah, alors, ça dépend de ce que vous entendez par rêver. Si vous l'imaginez redevenir numéro un mondial, marcher sur tous les joueurs et gagner tous les tournois du Grand Chelem, effectivement,
même
un seul. Avec Nadal, ma chère Sarah, on n'est jamais sûr de rien. Rappelez-vous, comme certains dont vous faites partie l'avaient déjà enterré par le passé, un passé pas si lointain. Hein, c'était au printemps dernier, lorsqu'il avait été battu en 16e à Rome par Chapovalov, en quart de finale à Madrid par Alcaraz. Les Cassandres faites partie l'avaient enterré.
Jamais.
Il avait mis une croix dessus. Et il avait dit dégagez, dégage, Nadal, tu n'existes plus. Et quelques semaines plus tard, voilà, tel le phénix, il renaissait de ses cendres.
Grâce à une cheville cassée de Zverev qui lui permet de gagner.
Il remportait pour la 14e fois Roland Garros. Alors, avec ce garçon, je suis désolé, mais on n'est jamais sûr de rien. Et j'ai même l'impression qu'il n'est jamais aussi fort que lorsque tout le monde l'enterre, comme vous le faites.
Oui, mais le temps joue pour lui.
Alors, c'est vrai qu'il a. Ben, évidemment. Non, mais c'est marrant. Steve, tu dis, moi, j'ai arrêté de rêver. Tu avais quand même ton idole de toujours. Il y a quelques semaines,
oui,
il y a quelques
mais là,
mois.
Les yeux de l'amour.
Ah, ben voilà.
Les yeux de l'amour. Et l'amour.
Et moi aussi, je pars avec les yeux de l'amour.
T'as amoureux beaucoup de monde, toi. C'est ça le problème.
Je crois.
T'as amoureux de monde, toi. De Alain Philippe, de David Gaudu, de Raphaël,
de Marc Madio,
de Clément Grenier,
de Pascal Duprat,
de Clément Noël, le skieur.
La femme de Christophe est furieuse, d'ailleurs.
Un peu amoureux. Enfin, bref, de qui
de qui?
Tu rappelles-toi, tu nous disais, alors que l'autre, il jouait sur une jambe, il était blessé depuis 6 mois. Non, il va revenir et va gagner. Eh ben, moi, je pense que Rafa est encore capable d'en gagner un ou deux. Alors, pas sur toutes les surfaces. Mais attends, à Roland Garros, s'il.
Mais non, mais c'est pas Zverev qui.
Si Zverev se passe.
Non, parce que. Si on regarde le palmarès de l'année dernière, oui, deux tournois du Grand Chelem à 35 ans, c'est juste exceptionnel.
Oui,
mais en fait, c'est même pas exceptionnel. C'est un coup de bol monstrueux. C'est un coup de bol monstrueux. Il joue l'Open d'Australie. Djokovic ne peut pas jouer. Celui qui a 7 tournois d'Open d'Australie.
Il a déjà gagné.
En finale, il perd 2-7-0 face à Medvedev.
Mais tu sais.
Il leur joue la finale.
Il peut y avoir une nouvelle petite épidémie de Covid.
Oui,
mais ça peut repartir.
Le match contre Medvedev l'année dernière, il perd 2-7-0. Mais tu ne mets pas un copec sur la victoire de Nadal.
Oui, mais c'est Nadal.
D'accord, mais.
Tu parles de mec qui est en.
Mais c'est déjà exceptionnel. Roland Garros, il a 3 premiers tours relativement faciles. Le match contre Djokovic est extraordinaire. Tu sais que le lendemain, tu sais que si ça va au bout, Zverev, il passe pas face à Zverev. Il ne passe pas. Les mecs font 2-7 en 3 heures. Il tient pas, on le sait.
D'ailleurs, Nadal l'a dit très récemment en disant que le match contre Zverev à Roland Garros, il s'en sort bien.
Il s'en sort bien. Il a le
cube bord. Pardon, c'est le cube bord. C'est ça la baraka des champions.
Il joue en finale un mec qui admire et qui vénère Nadal, qui a jamais fait de finale de Grand Chelem. Donc t'as un ascendant psychologique. Il gagne, pardon, 3 tournois du Grand Chelem. Et quand tu analyses le scénario, tu dis, et c'est quand même juste, ça se refait pas deux fois les scénarios qu'il a vécu en 2022.
Donc c'est un miracle que ce garçon ait gagné 14 fois Roland Garros.
Non, c'est un miracle que l'année dernière, il a gagné deux tournois du Grand Chelem. Et quand tu vois la fin de saison, je veux bien un miracle sur un tournoi, Sarah.
Je te trouve dur, parce que quand même, c'est pour cette raison qu'il est Nadal.
Bien sûr.
Donc tu me parles de chance, moi j'y crois pas trop à la chance.
Parce qu'il sait la prendre, sa chance.
Oui, mais Medvedev, en finale, il craque, tu peux pas le reprocher à Nadal, c'est partie du sport, ça, c'est la psychologie du sport.
Mais physiquement, je suis pas sûr qu'il arrive jusqu'en demi ou en finale.
Oui, mais sauf qu'en finale, il fait 5-7. Voilà. Oui, mais en finale, l'année dernière, il fait quand même 5-7 et il gagne. Si tu veux, après avoir perdu 2-7-0.
C'est il y a un an.
Oui, mais c'est extraordinaire déjà. Donc on peut pas parler de chance. Après, contre Zverev, ben oui, c'est pareil. Mais moi, je pense que quand même, qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, quoi. C'est-à-dire que on espère que lui, il en a marre en plus dans les conférences de presse. Maintenant, tu le sens quand même désabusé parce que.
Ouais, mais c'est énervant. Je comprends.
Non, mais c'est très énervant.
Mais bien sûr.
Et je pense à lui mettre une pression supplémentaire dont il n'a pas besoin et que quelque part, eh bien, le mec, t'y pense. Moi, quand on a tous vécu des fins de carrière autour de la table, t'y pense. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on te le rappelle tous les jours. Et t'en as marre, et puis tu te dis, mais ils ont peut-être raison. La vérité, c'est que tu te rends tellement dans le citron que tu te dis, mais je suis peut-être fini, moi. Et c'est ça qui me fait peur pour lui, si tu veux. C'est plus pour ça que je dis que j'y crois pas à un autre titre, parce que le mec, il est borderline, il sait très bien qu'il a un an près, il va pas durer jusqu'à 40 ans de Nadal, c'est pas comme Federer. Donc il a un an, là. Voilà, et je pense que ça sera compliqué pour lui.
Stéphane Marat.
En fait, le problème pour ces garçons-là, Nadal, Federer, Djokovic, c'est que quand on parle d'eux, s'ils gagnent pas, ça reste pour nous une déception. Moi, je pense que Nadal va être compétitif encore, parce que gagner trois matchs sur un tournoi du Grand Chelem, ça reste compétitif, mais c'est pas ce qu'on attend de Rafael Nadal. On attend de lui qu'il soit en finale ou qu'il gagne un tournoi du Grand Chelem. Et c'est là où, pour moi, j'arrête de rêver parce que les signaux sont pas très bons. L'année dernière, sa préparation à l'Open d'Australie, il gagne le tournoi d'Adelaide juste avant. Il est chaud bouillant. La joie, il perd contre Cameron Norrie, qu'il avait pas pris un set sur les quatre confrontations précédentes. Il se fait taper par Dominor, qu'il avait pas battu une seule fois sur les trois confrontations précédentes.
En plus, il gagne le premier set.
Eh oui.
Et généralement, quand tu perds le premier set face à Nadal, le mec, il te verrouille le match.
Et là, ça passe plus. Et il y a plus cette emprise psychologique qu'il avait par le passé sur ses adversaires parce qu'il a perdu. Ces mecs-là l'ont déjà battu. Et moi, j'ai trop de questions à la fois sur son déclin physique, parce que je veux pas revenir sur ses blessures l'année dernière. Bon, son pied qui s'est fait soigner. Après, il y a eu les abdominaux. Après, il s'est fissuré la côte sur la fin de saison. Et sur son déclin un petit peu psychologique, parce qu'il va débuter une saison pour la première fois en tant que père de famille. C'est-à-dire qu'il va devoir aller sur le circuit soit tout seul, soit avec sa femme et son enfant. Et quand on connaît comment il est méticuleux sur sa préparation de match, là, tout est bouleversé pour lui. C'est plus les mêmes préparations. Il a son fils qui peut être à 6h du matin. Ça change tout pour un garçon qui met ses bouteilles d'eau au centimètre près, au millimètre près.
Pourtant, tout est bouleversé pour lui.
Mais en plus, c'est mal préparé, Sarah. Tu disais, il a quand même une préparation de bizarre. Cette année,
il a perdu.
Non, mais tu veux dire, au lieu de faire du frais, il a voulu jouer.
Il est allé jouer sur dur indoor avec Bercy et le Masters, où il sait qu'il ne gagne jamais et c'est une surface qui lui convient pas. Après quand même une saison intense, il prend pas la place de numéro un mondial. Et en fait, est-ce qu'il a pas empiété de l'énergie pour son début de saison? Parce qu'à 36 ans, t'es obligé de choisir. Enfin, je veux dire, on en a entendu parler. Federer en a parlé longtemps, Nadal aussi. Ils sont obligés de composer leur planning. Et aujourd'hui, est-ce qu'il a pas brûlé des cartouches en allant peut-être chercher une place de numéro un mondial en fin de saison? Et que finalement, il a quoi? Récupérer de la fatigue? Aucune victoire et aucune certitude.
J'ai l'impression que vous souhaitez qu'il partage.
Mais Sarah a raison, sa fin de saison 2022, elle est moche. Hein. 4 défaites de suite, ça lui était pas arrivé depuis novembre 2029, qu'il perde 4 fois de suite.
2009.
Il y a une autre problématique pour Rafael Nadal. C'est la concurrence. Il y a des joueurs aujourd'hui qui jouent très très bien au tennis. Les Medvedev, Djoko, j'en parle pas. Alcaraz, même s'il est forfait, ça va être un pénible sur terre battue. Rude, Tsitsipas, Auger Yassim, Taylor Fritz, le Skisiner. Il y a quand même des mecs qui ont monté leur niveau et que Rafael Nadal, lui, il peut plus monter. Et à un moment donné, quand tu descends un peu, ces mecs-là, ils te tapent.
Et puis Stephen, ces mecs-là, ils savent qu'il est battable.
Exactement.
Alors qu'avant, il était imbattable.
Quelque part, Rafael Nadal, est-ce qu'il ne doit pas aller chercher la juste Roland Garros, façon de parler, évidemment, parce que c'est déjà.
Se concentrer, tu veux dire, sur Roland.
Mais voilà, jouer quelques matchs, quelques tournois, c'est peut-être d'ailleurs ce qu'il va faire. Mais ne pas trop s'épuiser sur une saison, un peu comme voulait faire Roger Federer à cause de la blessure.
Il a pas
juste jouer Wimbledon.
Un peu comme toi, tu veux faire. Quelques émissions importantes durant l'année, le reste du temps, t'es au repos.
Je suis en vacances,
voilà.
Mais parce qu'il faut s'économiser, il faut faire du frais.
Mais fais gaffe, t'as vu, tu finiras comme Christophe.
Après, j'essaie de ta théorie, elle peut s'appliquer à Nadal, mais le problème, c'est que dans le tennis, t'as besoin de gagner des matchs pour engranger de la confiance, t'as besoin de faire des tournois et de gagner des matchs. Si aujourd'hui, il mise toute sa saison sur un mois et demi, Rome, Monte-Carlo, Roland-Garros, c'est qu'il n'a pas joué avant, qu'il n'a pas gagné.
Je vous rappelle qu'il gagne Roland-Garros sans avoir gagné un tournoi sur terre battue avant. Donc tu dis oui, avant Roland Garros on s'inquiétait, mais comment tu veux pas ne pas t'inquiéter de Rafael Nadal qui gagne pas de tournoi, qui a des défaites qu'il n'avait jamais eues en préparation de Roland Garros? C'était légitime de se poser la question.
Ce mec a le mental le plus fort qu'on ait jamais connu sans doute sur les terrains de tennis.
Tu as le mental, alors tu as le physique.
Dans le micro.
Quand ton physique commence à dérailler, forcément que ça a une implication sur ton mental.
Nous verrons. Je pense qu'il en gagnera encore.
Je pense qu'il doit arrêter. Il doit rejoindre Federer et faire une doublette de paddle. Et je peux te dire que les deux au paddle, c'est un joueur.
Ouais, jouable.
Un joueur. Nadal Federer au paddle. À Marne la Coquette, moi je pense qu'on les tape.
Pour jouer au paddle, non, Steve?
Ouais, bah après, Federer, je pense que là, le genou, ça va. Pas pour gagner un grand chelem, mais pour jouer au paddle, ça doit aller quand même.
Fais-toi à Nuna, quand même.
Hanouna, road to Federer Nadal.
À retrouver
sur la plateforme MyCanal.
9h43, le zapping des GG. Juste un point sur notre direct en cours. C'est du ski alpin. Oui, il y a quand même un peu de neige à Kranjska Gora. C'est la première manche du slalom dame. Et c'est avec slalom géant dame. C'est avec Arnaud Souk. Salut Arnaud.
Salut les amis. Il y a même pas mal de neige hein, en Slovénie. Un petit peu plus qu'à Adelboden. On le verra tout à l'heure pour le slalom géant masculin. Pour l'instant, 8 skieuses se sont élancées sur la Podkorone, la Ragout, Berami, la Suissesse. Devance Federica Brignone, l'italienne de 12 centièmes, et Marta Bassino, une autre italienne de 20 centièmes. Les françaises, les deux françaises qui se sont élancées, Coralie Frasse-Tombé et Tessa Worley, occupent les deux dernières positions du classement provisoire. Coralie Frasse-Tombé à 69 centièmes et Tessa Worley à 96 centièmes. Ça n'est pas une bonne manche de la part de la double championne du monde française, Tessa Worley.
Merci beaucoup Arnaud Souk. On te retrouve évidemment toute la matinée autour du ski alpin et notamment de ce slalom.
Et pour ceux qui s'inquiètent du manque de neige, sachez que la neige arrive sur les Alpes françaises à partir de demain. Il y a une semaine de neige qui est annoncée. On va pouvoir te voir sur les piquets la semaine prochaine, dans les piquets, JC. Hein.
La semaine prochaine, nous serons en direct pour les RMC Sport ouais. Games de l'Alpe d'Huez et tu ne me verras pas sur les pistes de ski.
Pourquoi ça, parce que j'ai eu un petit accident en mars dernier.
Voilà.
Alors, l'accident, ça arrive une fois. Alors. Un accident, c'est un accident.
Si, je peux skier, mais c'est
le
juste.
Le problème, que... c'est que JC a un petit slip et qu'il a peur. Tout simplement. Voilà.
Écoute, juste, j'ai refait tous mes chicots. Un mois après, ça m'a duré 4 ans. Un mois après, j'arrive sur une piste, je m'enlève un chicot, si tu veux. Le ski, c'est pas pour moi. 9h45, on se retrouve dans quelques
instants.
Pour la suite des grandes gueules du sport. Le clash, Maxime Hermos, Philippe Saint-André, le zapping des GG. On s'en fout pas, tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h47, on est de retour dans les grandes gueules du sport. À partir de 10h, nous allons ouvrir le dossier débat Zinedine Zidane, succession à la tête de l'équipe de France. Il y a l'Assemblée Générale de la 3F en ce moment. D'ailleurs, nous nous rendrons au siège de cette fédération à Paris pour toutes les dernières informations. Le sort de Didier Deschamps ne devrait pas être connu, en tout cas, normalement. Mais sachez qu'il est bien parti pour remplir. Zinedine Zidane doit-il arrêter d'attendre les Bleus? Ce sera notre question à partir de 10h. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Des informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. Vous connaissez le principe, on reprend les bonnes vieilles habitudes en 2023. Première information dans le zapping des GG à vous donner. Le clash, Maxime Mermoz, Philippe Saint-André. On s'en fout pas. Denis Charvet.
On s'en fout pas.
Stéphane Brun.
Je m'en fous.
Je m'en fous, mais parce que j'ai pas bien suivi en fait.
D'accord.
Okay. Je ne m'en fous pas.
Ok, il y en a deux qui veulent réagir. Alors, invité du podcast cette semaine en terrain conquis, Maxime Mermoz a pointé du doigt l'attitude de Philippe Saint-André à son égard lorsqu'il était sélectionneur de l'équipe de France de rugby. L'ancien trois quarts centre n'a pas digéré son absence lors de la Coupe du Monde 2015. Alors, c'était il y a 8 ans, vous me direz, mais on a l'impression, et vous allez l'écouter, que c'était il y a 8 jours. Le lance-flamme, pour diverses raisons, mais donc il ne fait pas la Coupe du Monde 2015. Et Maxime Mermoz, je vous fais tout de même écouter un extrait, rencontre Philippe Saint-André quelques semaines après cette Coupe du Monde. Voici l'épisode La Sulfateuse.
Je croise au testimonial de Johnny Hawkinson à l'hôtel de Paris à Monaco. Je le croise dans le couloir et là, ce coach, il passe, il baisse la tête et il marche comme ça devant moi. Même pas un bonjour, ni rien. Et là, dans ma tête, je me dis, mais je savais que c'était une baltringue, un lâche. Surtout quoi, il avait dit dans son livre que j'étais une taupe aussi, sachant que lui invitait les journalistes en semaine pour manger au restaurant et essayer de les nourrir pour qu'ils soient gentils avec lui. J'ai rigolé et là, quand il passe devant, même pas un bonjour, rien, je dis c'est à l'image du personnage.
Bon voilà, Maxime Mermoz qui dit d'autres choses, mais on va pas tout passer, sinon moi l'année prochaine je skie au mois de juillet. Réponse hier.
Surtout tu skies plus en plus.
Oui, donc. Donc je skie plus au mois de juillet. Réponse donc de Philippe Saint-André hier, le coach de Montpellier dans le super Moscato Show. Philippe Saint-André, très classe.
Après, je peux comprendre qu'il m'en veuille et qu'il m'en veuille toute sa vie. J'ai surtout envie que lui trouve sa voie de l'après-rugby et soit heureux. Parce que tu ne peux pas ressortir des histoires de 7-8 ans si t'es heureux, avec une frustration comme ça. C'est... Et sincèrement, je n'ai pas envie d'aller polémiquer parce que ça ne sert même à rien.
Christophe Cessieux.
Non, mais je trouve ça désolant, désolant. En plus, heureusement qu'il n'y ait pas la Coupe du Monde 2015. Ça reste une tâche sur tous les joueurs qui ont pratiqué cette Coupe du Monde, tellement on a été mauvais. Que ce garçon qui a été un bon rugbyman attende autant d'années pour venir régler ses comptes de cette manière, franchement, ça me désole de sa part. C'est vrai que ça a été un bon joueur, mais je pense qu'il se réinvente un peu sa carrière quand même, Maxime Mermoz. C'était, Denis, ça a été un bon joueur de rugby, mais c'était pas non plus du talent de ceux qu'on a aujourd'hui. Et là, balancer comme ça, traiter Philippe de lâche. Rappelez-vous, Saint-André, justement, en 2015, après la Coupe du Monde, où on prend une rouste contre l'Irlande et derrière contre la Nouvelle-Zélande, eh ben, il est resté droit dans ses bottes. Il est venu
s'adresser,
il a assumé la défaite, il est venu face à la presse et pourtant il a morflé, eh ben, il est resté droit dans ses bottes. Alors, le traiter de lâche, de baltringue, je trouve ça ridicule et ça ne va pas aller en l'honneur de Maxime Bermond.
Ridicule. Mais si on va un peu plus loin, ça dit beaucoup aussi parfois des ressentiments des joueurs qui ne sont pas pris pour une sélection et qui.
Non, mais il y a beaucoup de frustration, évidemment. Mais on a tous vécu ça. Je l'ai vécu. Tous les sportifs
vivent ça. Pas insulté ton sélectionneur.
La désillusion, la déception, la désillusion, on le vit tous à un moment donné avec des douleurs qui restent à vie à l'intérieur. Donc ce qui est triste, c'est que voilà, il y a beaucoup de frustration en lui, il y a beaucoup d'amertume. Et je connais bien Maxime, c'est un bon garçon, mais. C'est vrai que ça se fait pas, quoi. Voilà, donc je comprends la réaction de Philippe aussi. Après, s'il avait des choses à lui reprocher, tu le fais pas par presse interposée, tu l'appelles et puis tu règles les choses.
Elles sont dans les valeurs de l'Ovalie, hein. Elles ont disparu, mon grand.
Ouais, dans le prochain.
Ça te fait marrer, tu bois du petit lait, mais tu as raison.
Dans le prochain zapping, nous parlerons de cette histoire
dans ce sport.
Sortie par le Parisien ce matin, où Sébastien Chabal, légende du 15 de France, joueur important en tout cas il y a quelques années, ambassadeur de France 2023, soupçonné de trafic de billets pour la Coupe du Monde. On en parle à 10h45. Voilà, c'était une information du Parisien ce matin. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner. Thierry Henry qui souhaiterait bien devenir le sélectionneur de la Belgique. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je m'en fous pas.
Stéphane Brun.
Oui, ça m'intéresse un petit peu.
Moi, je m'en fous complet.
Ok, air zapping, j'ai l'impression pour ça.
Non, pas du tout.
Oui, je m'en fous pas.
Ok, selon la presse belge, le Français de 45 ans serait bien intéressé pour devenir le nouveau sélectionneur de la Belgique. L'ancien buteur international français aurait confirmé ce souhait à la fédération de manière informelle, mais il n'a toujours pas postulé officiellement. Vous le savez, hein, il est dans le staff des Diables Rouges depuis 2021, après un premier passage entre 2016 et 2018. Thierry Henry a les faveurs, ça c'est important, de plusieurs cadres du vestiaire qui se sont exprimés, notamment Romelu Lukaku. Il a le respect de tous les joueurs, il a tout gagné, il sait coacher, il sait ce qu'on doit faire pour y arriver, il connaît l'équipe et le staff. Pour moi, il est l'entraîneur idéal pour notre équipe nationale. Stephen.
Écoute, déjà pour Thierry Henry, ça serait un énorme coup, parce qu'on rappelle de son court passage monégasque sur le banc de touche qui n'avait pas été très bon. Et puis on sait que c'est quelqu'un qui a un énorme ego, donc les petits clubs pour lui ça l'intéresse pas. Donc je pense que la sélection belge c'est quelque chose qui est en accord avec ses attentes et sa valeur. C'est un vestiaire qui est très compliqué, le vestiaire belge, on l'a vu, hein, de la dernière Coupe du Monde, il y a tout qui part en vrille. Donc avoir le soutien des cadres, les De Bruyne et des Lukaku, c'est déjà un bon point. Je pense que Thierry Henry, s'il a la possibilité d'y aller, il faut qu'il se jette dessus. Parce que la Belgique est quand même une grande nation du football. Peut-être qu'ils ont loupé le coche avec cette génération-là, mais il y a quand même encore des joueurs de talent.
La Belgique doit se jeter sur Thierry Henry. Et puis ça, on peut revenir à un débat qu'on a déjà eu dans cette émission, c'est à savoir une sélection doit être prise par un étranger. Ouais, alors c'était déjà le cas en Belgique avec l'Espagnol Martinez.
D'accord, donc Thierry Henry, il doit être sélectionneur que de la France.
Et quand Zidane,
il doit être sélectionneur que de la France.
Et quand Zidane va devenir entraîneur du Brésil,
il se ferme beaucoup de portes.
Ça ne vous dérange pas, vous?
Non. Non,
bah, moi, il a le droit de travailler quand il y a un
Stéphane Kovac, c'est qui a relancé le football français dans les années 70.
C'était dur quand même.
Non, mais en quoi ça se passerait
soit un club, soit l'équipe de France?
C'est juste que c'est dogmatique.
C'est dogmatique de quoi? Dogmatique
de rien du tout. Pour chaque pays, c'est dogmatique. Il y a des pays qui sont prêts à faire venir des sélectionneurs étrangers. Je suis pas sûr que la France du foot, par exemple, serait d'accord pour faire venir Fabio Capello.
Aujourd'hui non.
Mais même il y a 10 ans.
Il y a 30 ans, ils l'ont fait, ça a plutôt bien réussi. C'est ce que te dit Christophe. Je suis désolé, il y a un bon exemple avec Kovacs qui a révolutionné un petit peu quand il est venu.
On ne parle pas de réussite, on parle de dogmatisme. Est-ce que quand on a une équipe nationale, est-ce que on imagine que le sélectionneur soit d'une autre nationalité? La question, elle peut se poser.
Ça se fait dans tous les sports.
Oui, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. C'est que la question se pose. Et est-ce qu'une fédération peut avoir un parti pris qu'elle tienne jusqu'au bout? Voilà, après...
Exactement.
Moi, je sais pas, ici,
vous êtes des nationalistes du sport, en fait, c'est ça, toi. Il faudrait porter chanter la Marseillaise à l'entraînement, sortir le drapeau français, autrement, on n'a pas le droit, quoi.
Mais non,
c'est ça.
Bleu, blanc, rouge.
Alors, ça me fait marrer des mecs du rugby, là, parce que dès qu'on vous a dit, on va prendre le sélectionneur anglais.
Proposition du président, Bernard Laporte, voulait un sélectionneur étranger.
Le monde du rugby, référendum négatif. Non, mais surtout pas d'étrangers à la tête du 15 de France. Vous faites marrer maintenant.
Oui, peut-être parce que nous avons des bons techniciens, et c'est peut-être. Et dans le foot, il y a peut-être. Des nations qui n'ont pas assez de bons techniciens.
Non, mais la différence, c'est que là, Thierry Henry, il est à la sélection belge depuis un moment.
En revanche, Thierry Henry, il ne faut pas qu'il se plante s'il devient sélectionneur de la Belgique, parce qu'il a déjà deux échecs en tant qu'entraîneur. Un troisième le ferait passer à la trapinette.
Et je ne dis pas que ça ne va pas. Je me dis que dans un pays, forcément, on pose la question parce que c'est une philosophie d'un pays. Et
moi, c'est entraîneur français, monsieur.
De dire assistant, ça ne me dérange pas,
mais peut-être les Belges ou les Français, ça peut les déranger, c'est tout. C'est pas moi personnellement, moi je m'en carre.
Les Anglais, regarde les Anglais.
Ok, on a plus de temps.
C'est bon. 30 secondes. Les Anglais ont pris un sélectionneur australien pour entraîner l'équipe d'Angleterre. Et pourtant, l'Angleterre, c'est le pays du rugby. Donc tu vois, les exemples négatifs, tu en vas partout. Hein.
On va prendre l'air, ça va te faire du bien.
Ouais, non, c'est surtout à toi qu'il faudrait prendre l'air.
La première manche du slalom géant d'âme, Arnaud Souk, pardon, c'est animé.
C'est une Canadienne qui domine les débats, c'est la petite surprise du jour. Valérie Grenier, donc la Québécoise qui domine pour l'instant sur la Podcorène devant la Suissesse Lara Gut-Berami, l'Italienne Federica Brignone. Toutes ces dames se tiennent en moins de 2 dixièmes de seconde. Ça s'est moins bien passé en revanche pour Tessa Worley qui pointe à 1 seconde de la Canadienne en 10e position provisoire. Coralie Frasson-B, elle se classe 8e à 73 centièmes. Rien n'est rédhibitoire, mais la piste ne semble pas forcément ralentir ce matin. Ça risque pas non plus d'être le cas cet après-midi, ce qui veut dire que Tessa Worley va devoir sortir une très très grosse manche si elle compte s'approcher du podium, de même que Coralie Frasson-B.
Merci beaucoup Arnaud Souk, à tout à l'heure. Au moins Arnaud est beaucoup moins dissipé que nous. On se retrouve dans quelques
instants.
C'est bon, très bien. Merci
tout
beaucoup. Non, c'est bon. On se retrouve dans quelques instants pour parler de Zidane. Doit-il arrêter d'attendre les Bleus? À tout de suite sur
Grenier.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules du sport.